Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture. Au menu, l'actualité culturelle de l'Anjou et plus si affinité. Au micro, nous sommes 7. 7 chroniqueurs à fouiller, fouiner, dégoter les perles culturelles de la région. 7 dont la seule motivation est la curiosité. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel, disait Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Les villes de demain ne seront pas celles d'hier. Inventer, construire la ville de demain, c'est un défi d'une ampleur inédite. Et tout indique que les villes sont à un tournant de leur histoire. Aujourd'hui, on parle urbanisme, vous l'aurez compris, avec l'exemple d'une ville moyenne, Saumur. Faut-il faire table rase de la ville existante ? Comment faire évoluer la ville au regard des enjeux écologiques, collectifs et technologiques ? Comment faire de la ville d'aujourd'hui un lieu vivable et vivant ? Pour parler de ce vaste sujet, nous recevons Catherine Russac, responsable pour la ville de Saumur, ville d'art et d'histoire, et Serge Marolo, architecte conseil de la ville de Saumur. Et avec moi, pour animer, Dominique et Bénédicte, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Saumur, son château, ses vins, ses cavaliers, son fleuve. Alors, Bénédicte et Dominique, faut-il faire table rase de la ville existante pour créer la ville du futur et d'aujourd'hui?
Dans un film catastrophe, peut-être. Saumur, c'est d'abord un bijou du patrimoine. Accepter son héritage historique, s'agrandir, transformer le déjà là, se projeter dans l'avenir tout en respectant les attentes des habitants. C'est un défi, une responsabilité immense pour les architectes, les urbanistes, les élus et les habitants. Tout le monde est concerné. Catherine Russac, Serge Marolo, bonjour.
Bonjour.
Catherine Russac, quelles sont les spécificités du centre-ville de Saumur ?
Alors, Saumur est ville d'art et d'histoire depuis 2006, vous l'avez dit tout à l'heure. Elle a été ainsi labellisée par le ministère de la Culture, justement pour la richesse de son patrimoine culturel et historique. Pour une ville de 28 000 habitants, c'est 64 monuments historiques. C'est ce qui a aussi fait sa renommée touristique. Donc nous, aujourd'hui, le cœur de notre métier, c'est effectivement de faire découvrir ce patrimoine, mais pas que. Et c'est là qu'on va parler effectivement urbanisme et extension de la ville, puisque considérer uniquement ces monuments historiques, ce serait très réducteur pour penser la ville. Et notre métier, nous, c'est vraiment plutôt de réfléchir à ces problématiques d'urbanisme, d'extension, d'adaptation effectivement à la vie moderne. Donc on s'appuie sur ce cœur historique et on réfléchit la ville du futur.
Saumur est une des premières villes labellisées patrimoine remarquable de l'UNESCO. C'est une des premières villes à avoir un secteur sauvegardé. Serge Marlot, quelle est la politique de la ville pour le centre historique ?
Alors effectivement, la particularité de Saumur, et c'est assez important, c'est la taille du secteur protégé par rapport à la taille de la ville. La moitié du territoire est en secteur protégé. Ce qui veut dire qu'il y a une réglementation spécifique, assez pointue, assez cohérente, mais c'est important de dire qu'elle est assez cohérente, mais néanmoins forcément assez contraignante. À ce titre, l'architecte des bâtiments de France a un rôle important, puisqu'il intervient donc sur du plus petit projet au plus grand projet sur la moitié du territoire de la ville. Dans ce cadre-là, qui est une contrainte peut-être un peu supplémentaire par rapport à une autre ville de la même taille, effectivement, les élus, bien sûr, souhaitent que la situation soit la meilleure possible en ville pour le logement, et peut-être même mieux qu'elle ne l'est actuellement. Ils utilisent pour ça un aspect qui est une opportunité, c'est ce qu'on appelle l'action cœur de ville. Donc Saumur a été choisi, je crois qu'il y a à peu près 200 villes, un peu plus de 200 villes en France, qui ont été choisies pour donc avoir un focus, une attention particulière, le fait que tous les intervenants soient un peu mobilisés de manière spécifique pour faciliter les projets dans la ville. Donc voilà sur quoi on peut, les élus s'appuient. Donc dans le centre-ville, il y a d'ailleurs à ce titre une opération encore plus, si je rentre dans le détail, encore plus particulière. C'est une opération qui concerne une petite partie du centre-ville et qui est donc un peu un coup d'essai. C'est sur 5 ans où les gens peuvent bénéficier de subventions plus importantes que d'habitude et aussi d'une aide pour leur projet, pour les accompagner. C'est une petite partie du centre-ville hein, pour l'instant, et c'est vraiment, je comprends ça comme un peu un coup d'essai où on essaie vraiment d'améliorer les choses de manière un peu plus pertinente ou dans le détail. Alors on part bien sûr d'un sujet un peu plus difficile qu'ailleurs, parce que Saumur est une ville. Donc une ville qui est, et en plus, comme on l'a déjà dit, hein, une ville qui est constituée de manière historique, et, de manière très, 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 très costaud, très, 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 très détaillée. Et donc, on a tout un travail pour, à la fois, bien sûr, continuer à tirer parti de cette richesse, mais aussi pour essayer de s'en sortir un peu, pour améliorer à la fois la vie des gens.
Alors, bien sûr, Saumur, c'est, comme vous l'avez expliqué, un secteur sauvegardé, c'est la fameuse loi Malraux. Un secteur sauvegardé, ça n'est pas seulement des grands édifices à restaurer, il y a effectivement beaucoup d'églises, même à Saumur, même dans ce secteur sauvegardé, il y a le château, il y a des équipements publics importants, le théâtre, l'hôtel de ville. Ça n'est pas non plus d'ailleurs seulement de beaux hôtels particuliers, mais c'est aussi et surtout une succession d'immeubles d'habitation qui constituent ces quartiers anciens. Avec des paysages de ruelles piétonnes, avec des escaliers, avec des passages. Et c'est ça qui fait aussi tout le charme et la qualité de ce centre-ville.
Est-ce qu'il y a beaucoup de logements vides en centre-ville ?
Alors, en fait, on a un peu plus de logements vides à Saumur qu'ailleurs. Le département du Maine-et-Loire est un peu en dessous de la moyenne nationale au niveau des logements vacants. Je crois que nationalement c'est 9%, le Maine-et-Loire c'est 7% et Saumur c'est entre 12 et 13%. Donc on a ce souci-là, mais ça s'explique par l'histoire de Saumur et aussi par le fait que c'est une ville, c'est une petite ville mais c'est déjà une ville. On sait par exemple que les logements vacants touchent plutôt les appartements que les maisons. On sait que les logements vacants touchent plutôt les logements anciens qui n'ont pas été entretenus ou pas assez. Et donc on se retrouve un peu dans le cas de Saumur. Et puis on a aussi une particularité qui n'est pas innocente, c'est que dans le centre-ville, on a beaucoup d'immeubles qui sont occupés en rez-de-chaussée par des commerces et où on n'a pas d'accès indépendant aux étages. Ça, c'est un aspect qui est finalement très très important dans l'évolution de la ville.
Et quelles sont les critiques justement le plus souvent rencontrées à l'égard de ces logements anciens ? Qu'est-ce qui repousse un peu les gens à venir habiter ces logements du centre-ville ?
Alors, forcément il y en a plusieurs.
Bien sûr, mais
je pense que si on entend les gens aujourd'hui, depuis un an, deux ans, c'est forcément le confort thermique.
D'accord.
Ouais. Ça, c'est un discours récent, disons qui s'est accentué récemment. Ensuite, il y a les cours des îlots. Le fait que on n'y a pas tellement accès, c'est quelquefois en très mauvais état. C'est des petits espaces qui ont été encombrés de plus en plus au cours de la vie de la ville. Et puis peut-être la taille des logements en fonction du type de famille. Voilà un peu.
Est-ce qu'on vous parle aussi beaucoup du parking, par exemple ? Est-ce qu'on vous parle
de
l'entrée de la lumière et du soleil à l'intérieur de ces logements en centre ancien ?
Alors, le parking, oui, c'est effectivement un problème important dans la ville. La lumière, alors c'est à la fois, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas trop, comment on n'aborde pas trop avec moi, si ce n'est par des chemins détournés. Il y a quand même un petit... si, je peux vous donner une anecdote. C'est la notion de la verrière, qui est une notion qui a pris pas mal d'importance dans l'habitat ces dernières années. Il se trouve que, historiquement, à Saumur, on n'a pas de verrière. Et donc, l'analyse historique, qui est importante à Saumur, encore une fois, n'engage pas trop vers ce type d'architecture. Je vous dis ça comme exemple particulier. C'est un exemple de cette idée de ce que peuvent parler les gens à propos de la lumière dans le logement.
Est-ce que la ville de Saumur a la main sur un ensemble de restaurations, ça veut dire plusieurs immeubles adjacents les uns aux autres, ou est-ce que ce sont des opérations individuelles, isolées et réalisées par des personnes individuelles ?
Alors, on a un peu les deux, puisque quand on s'éloigne du centre-ville, on a plusieurs opérations de réhabilitation de logements, plutôt des logements sociaux, où donc là, forcément, il y a une vision d'ensemble et une possibilité d'agir sur un ensemble.
Et dans le centre ancien ?
Alors, dans le centre ancien, non.
Non.
On a plutôt affaire à des... Alors, c'est quand même une espèce, c'est quand même une piste de travail qu'on a essayé d'incorporer à notre travail sur l'opération de renouvellement urbain que j'évoquais tout à l'heure, de la petite partie du centre-ville. On a essayé de se concentrer sur un îlot, un peu dans cet objectif-là. Mais néanmoins, c'est un souhait, c'est une tentative, on s'y attache, mais on est quand même forcément en face d'intérêts privés qui sont isolés.
Ça veut dire que la ville ou son opérateur, l'office des municipal peut-être, n'est pas propriétaire d'ensembles urbains importants ?
Non, pas au centre-ville de Saumur.
D'accord, donc ce sont des opérations coup par coup.
Ça appartient à des particuliers qui ont chacun un petit appartement, un studio, une...
Oui, c'est ça. On a des copropriétés et on a... Ça me fait penser qu'on a aussi une particularité, disons, correspondant peut-être à une ville moyenne, c'est le fait que les copropriétés ne sont pas toujours très bien structurées. Et ça aussi, c'est une difficulté complémentaire quand on mène une opération d'amélioration de l'habitat en centre-ville. Si nous n'avons pas d'interlocuteurs un peu structurés, ça complique un peu les choses.
Alors, on sait que Saumur a été construite avec cette pierre de tuffeau. C'est ce qui fait son charme. Mais est-ce que c'est aujourd'hui un frein à la réhabilitation de ces logements dans ce quartier ancien ?
Je n'en suis pas si sûr que ça.
D'accord, donc c'est...
Parce que
beaucoup de personnes craignent de s'atteler à la restauration de façades en tuffeau.
Alors oui, bien sûr. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais la ville a mis en place des aides financières.
D'accord, il y a des compensations financières.
Oui. Alors, évidemment, on n'arrive pas à rattraper la différence de construction entre une pierre de tuffeau et une maçonnerie enduite. Mais néanmoins, la ville a en place un système de subvention qui est loin d'être négligeable.
D'accord. Et en ce qui concerne donc la concilier performance énergétique des logements et habitats anciens, ça c'est une tâche très lourde.
Oui.
Et quelquefois sans résultat probant.
Au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître que nous n'en sommes pas à des résultats qui soient satisfaisants. Mais c'est aussi parce que la demande est récente, la pression est récente, les contraintes sont fortes. Donc je pense qu'on va arriver à faire des choses. Mais là, c'est un peu tôt pour arriver à un niveau de satisfaction. Sachant qu'il faut bien comprendre qu'il est évident que dans un logement ancien, on ne peut pas atteindre les performances d'un logement neuf. Mais ce n'est pas si grave que ça, parce qu'on peut vivre dans un logement ancien qui soit confortable.
D'accord. Donc il faut assouplir les règles, je pense, au diagnostic de performance énergétique dans les centres anciens pour permettre à ces logements d'être réhabilités dans des conditions satisfaisantes.
Ah oui, c'est sûr, c'est une condition essentielle.
Mais elle n'est pas réelle encore aujourd'hui ?
Non, pas encore.
D'accord.
Après avoir abordé le centre-ville, Catherine Russac, vous avez fait une étude très fouillée des quartiers de Saumur. Alors, pour que nous comprenions bien la ville aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dresser un rapide portrait des agrandissements de cette ville ?
Oui, tout à fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la ville ancienne, elle s'est vraiment développée en bord de Loire, sur ces grands axes de communication qui ont fini par donner naissance à des faubourgs, qui ont été donc occupés jusqu'au XIXe siècle. Et puis, il s'est passé au XXe siècle un certain nombre d'événements, déjà des crises de logement successives. Hein. On a des indications dans les archives de Saumur qui nous disent que dès la fin du XIXe siècle, les élus s'en préoccupent. Et recherche des solutions, voilà, pour pouvoir loger les habitants. En 1897, une étude fait état de 1500 personnes à la rue à Saumur, ou dans des conditions de logement extrêmement indécentes. Et la problématique d'un centre-ville déjà saturé, avec ses faubourgs saturés, ben, ça va être effectivement de trouver des nouveaux terrains pour bâtir. Et sur cette crise de logement de la fin du 19e et de la première moitié du 20e siècle, va se rajouter évidemment les destructions de la Deuxième Guerre mondiale. Saumur a été une des 1800 communes sinistrées de France, avec 2400 bâtiments en ruine. Et donc la crise du logement va être vraiment flagrante à ce moment-là. Les choix de reconstruction de la ville vont d'abord se porter sur les axes de communication, justement, rétablir effectivement les ponts sur la Loire et puis les entreprises également. Et puis ce n'est qu'à partir de 1953 qu'on va commencer à accélérer le mouvement de la reconstruction du logement, notamment avec l'office public des HBM, qui deviendra l'office public des HLM. Et je regardais un peu quelques chiffres, puisqu'on parlait du cœur historique. Il y a 2645 maisons, appartements, maisons confondues, antérieures à 1919. Et on va construire entre 1946 et 2021, aujourd'hui, plus de 10 000 logements, soit 75% du parc locatif et résidentiel de la ville de Saumur. Donc c'est vrai qu'on s'attache beaucoup au cœur historique. En réalité, c'est un pauvre petit quart de la surface habitée aujourd'hui de Saumur. Et donc, parmi ces terrains qu'on va s'employer à construire, à aménager, à lotir à partir donc de 1953, il y a le chemin vert, les hauts quartiers, donc des quartiers qui sont très, très périphériques. On est déjà loin des faubourgs à ce moment-là. Et donc, c'est la problématique qui va se poser dans l'aménagement de ces terrains. Donc c'est effectivement la question du remembrement, la question effectivement de la préemption des terres agricoles. On est sur des terrains viticoles principalement, mais ça va être aussi à un moment donné de calibrer l'habitat par rapport à une demande croissante de l'habitat. On est dans le baby-boom d'après-guerre, on a aussi les retours des militaires par exemple. On a aussi beaucoup de ruraux qui quittent la campagne pour venir travailler en ville. Donc la demande est presque exponentielle. Et puis, le troisième axe aussi de l'aménagement donc de ces quartiers périphériques, ça va être effectivement l'équipement. Il va falloir donc rendre ces quartiers d'une certaine manière autonomes, avec à la fois des écoles, collèges, lycées, des hôpitaux, des commerces, des équipements sportifs, des équipements de loisirs. Et donc, on va voir comme ça, dans la deuxième moitié du XXe siècle, apparaître des quartiers très complets, autour de la ville-centre de Saumur.
Alors, on va faire une petite pause, parce que vous nous donnez là un véritable cours d'histoire de l'urbanisme. C'est absolument passionnant. Et puis, on constate aussi que l'évolution du cadre de vie des gens suit l'histoire de France. On fait donc une petite pause et on repart tout de suite après sur ce sujet-là passionnant avec Mathieu Chélide, ce jour-là.
J'étais Pierre. J'étais toi. J'étais nous. Ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, à perdre Caille, à perdre Liane, à perdre Mur, en mille. Partout ce jour-là.
toujours à l'écoute de Franche Culture sur Radio Campus Angers. Aujourd'hui, on parle donc d'urbanisme, hier, aujourd'hui et demain, avec comme exemple la ville de Saumur. Et nous retrouvons nos invités, Catherine Russacle, responsable pour la ville de Saumur, ville d'art et d'histoire, et Serge Marolo, architecte conseil de la ville de Saumur. Nous avons parlé de la ville dans son écrin historique, de ses évolutions à travers les âges, et maintenant... À vous la parole, Bénédicte.
Et maintenant, comment conjuguer la ville de Saumur au futur ? Catherine Roussac, vous avez fait une grande enquête, il me semble, sur le désir des habitants de Saumur. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ?
Alors, nous, dans notre travail de recherche, on a déjà pu établir que des enquêtes auprès des habitants, il y en avait eu plusieurs, y compris des initiatives des habitants, puisque dès 1965, les dernières grandes tours achevées, les habitants vont se constituer en associations, justement pour réclamer des services et des équipements publics. Et puis, dans les années 80, il va y avoir effectivement la première grande enquête, parce qu'on s'aperçoit que les habitations ont vieilli, les immeubles ont vieilli. Une partie de la population est partie faire construire des pavillons dans la périphérie. L'environnement s'est dégradé, il y a des nouveaux habitants qui sont arrivés. Et la question qui se pose, c'est comment remettre du lien au cœur, notamment de ce quartier prioritaire en particulier, qui sont donc les hauts quartiers. Et il va y avoir même un petit bus qui va circuler avec des maquettes de la ville future, donc telle qu'elle est projetée par les édiles, pour que les gens, les enfants, notamment des classes, les parents, les commerçants puissent effectivement émettre des avis, des hypothèses. Ils vont recueillir 152 avis qui vont permettre de faire un petit peu évoluer les choses, mais ce sera très très long à mettre en place. Et puis, donc moi, aujourd'hui, on a été à la rencontre des habitants, puisque donc le travail d'enquête qu'on a mené était cofinancé par la politique de la ville pour un petit peu recueillir leur avis aussi sur ces hauts quartiers aujourd'hui, comment ils les vivent, comment ils s'y sentent. Et on a été plutôt très agréablement surpris de voir des habitants quand même heureux dans ce quartier, parce qu'effectivement, ils sont relativement proches du centre, finalement. Donc, il y a ce lien quand même avec la ville ancienne qui est maintenu. Et puis, surtout, le quartier dispose d'équipements, de lieux de rencontre, de commerce. Donc, on n'est pas du tout dans un quartier isolé, comme on pourrait l'imaginer dans certaines autres villes. Donc, il y a effectivement des parallèles à faire avec certaines villes de France. Et puis, cette spécificité d'avoir des habitants quand même plutôt satisfaits.
Si je vous comprends bien, pour les quartiers périphériques, il n'y a pas beaucoup de mixité sociale. Chaque quartier a un peu sa typologie sociale, c'est-à-dire regroupe des gens issus de la même échelle sociale. Est-ce que, au contraire, dans le centre-ville, on n'a pas un meilleur brassage finalement des gens ?
Alors, sur la question de la mixité sociale, je pense qu'en fait, il y a de la mixité sociale. Par contre, il y a un dénominateur commun à cette mixité sociale, c'est plutôt la pauvreté. Aujourd'hui, l'essentiel du parc d'habitation des quartiers prioritaires de la ville sont des logements en location par le bailleur social Saumur Habitat. Et donc, effectivement, il y a un brassage, un métissage de la population, mais on reste sur des populations à faible revenu. Ce qui est très différent du centre-ville, parce que je pense, et là je me tourne vers mon collègue Serge, les secteurs sauvegardés, on sait, ont engendré une forme de gentrification des centres urbains et donc une montée des prix et effectivement un éloignement des habitants à revenus plus modestes. Donc je pense que c'est aussi le cas de Saumur, c'est le cas de beaucoup de villes de France. Et le bailleur social, effectivement, est un tout petit peu implanté dans le centre historique, notamment à travers l'Îlot d'Acier, qui est quand même un remarquable ensemble immobilier social. Mais je pense que la mixité est beaucoup moins importante en centre-ville qu'elle ne peut l'être dans les quartiers périphériques.
Et si on se tourne vers Saumur de demain, est-ce qu'il y a des projets de lotissement, d'agrandissement ? Comment vous percevez l'agrandissement de la ville demain ?
Serge Marolo.
Alors, juste une petite chose par rapport au centre-ville. Je pense que Saumur a encore ce que Catherine a appelé la gentrification. Je pense qu'à Saumur, ce n'est pas encore bien installé. On a encore dans le centre-ville de Saumur des gens qui, historiquement, étaient au centre-ville et qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Pour répondre à votre question, les élus ont plusieurs... pistes de projets. D'abord, il y a par l'intermédiaire du plan local d'urbanisme intercommunal, il y a plusieurs petits effets de loupe sur différents quartiers de la ville, pas le centre-ville, mais quand on s'éloigne du centre-ville, qu'on appelle opération d'aménagement programmé, où c'était une petite échelle, hein, mais c'est sur, on rassemble quelques parcelles et on voit comment elles peuvent être le support de futurs projets, à la fois pour le projet en lui-même, mais aussi pour un meilleur fonctionnement du quartier, des connexions. Il y a des opérations plus importantes, je pense par exemple à la ZAC Volanglais qui commence actuellement, on a juste les premières maisons et qui correspond quand même à 540 possibilités de maisons. Alors on est un petit peu plus loin du centre, mais on est quand même pas si loin que ça. Je dois ajouter qu'il y a aussi une piste de travail qui ne touche pas forcément tout de suite le logement, mais qui par cascade peut le toucher, c'est tout le travail qui est fait sur les espaces publics. À la fois le travail de réaménagement de matériaux de manière assez simple dans les rues, un travail plus conséquent dans certaines rues où là on installe des pistes cyclables, des choses comme ça, avec toujours la notion de continuité de matériaux pour avoir un fil rouge dans la ville. Et puis on a aussi un grand projet qui va commencer, qui est commencé puisque les études sont commencées, c'est tout l'aménagement des quais. Dieu sait si les quais sont importants à Saumur, et donc il s'agit de pouvoir en tirer le meilleur possible pour les Saumurois et les visiteurs. Et ça, c'est un grand projet qui commence.
Alors, je reviens à cette notion d'habitat. Vous parlez de ce quartier qui se situe assez loin, me semble-t-il, quand même du centre-ville, puisqu'il est au-delà de la rocade qui contourne Saumur. Est-ce que ce grand projet d'urbanisme ne se fait pas au détriment de la réhabilitation du centre-ville, là où encore il y a du logement vacant ? Ou formulé de manière un peu différente, est-ce que ce centre ancien de Saumur, qui est reconnu nationalement, voire internationalement, puisque c'est le patrimoine UNESCO, est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est un fardeau pour l'extension et la rénovation et la survie de la ville de Saumur ?
Moi, je pense que c'est forcément une chance.
Très bien.
C'est incroyable d'avoir une qualité comme ça. Je pense que on ne parle pas des mêmes personnes non plus. Je pense que quelqu'un qui a envie d'habiter le centre-ville et quelqu'un qui a envie d'habiter un nouvel aménagement comme la ZAC, c'est pas la même chose. Donc je pense que ça doit cohabiter, mais il est nécessaire, il est obligé, il est heureux que ça se fasse en même temps.
Enfin, tous les habitants qui vont habiter en périphérie, ce sont autant de personnes en moins à venir habiter le centre-ville. Alors effectivement, elles n'ont pas les mêmes aspirations. Elles n'ont pas les mêmes soucis de cadre de vie, mais j'aimerais que le centre-ville ne soit pas le parent pauvre.
Ah mais bien sûr, il faut faire les deux.
Très bien.
Et qu'en dit votre enquête, Catherine Russac, est-ce que dans votre enquête, il est ressorti que les gens avaient envie d'habiter dans des maisons ou bien au contraire d'habiter dans ce si beau site du centre-ville ?
Alors, on n'a pas du tout interrogé les personnes hein, sur ces questions-là. L'idée pour nous, c'était vraiment d'essayer de retrouver la trace des plus anciens habitants des hauts quartiers. Donc, à partir du moment où le quartier se construit en 1953, pour comprendre un petit peu aussi l'évolution des façons d'habiter ces quartiers prioritaires. Des petits logements, en fait, pour faire très court, des petits logements de 6 appartements aux grandes barres de 110 appartements. On a un revirement complet de ce modèle urbanisme et architectural dans les années 70. Et on va revenir avec les ILT d'Yves Roland dans le quartier du Vigneault à un urbanisme à taille plus humaine. Et c'est ce qui correspondait vraiment aux attentes des habitants.
Et aujourd'hui, quelles sont leurs attentes en 2022 ?
Beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'espaces de jeux pour les enfants, des mobilités douces, ça revient depuis les années 80, le côté un peu accidentogène de certains axes de circulation.
Ça veut dire des pistes cyclables ?
Pistes cyclables, espaces piétons, jardins, espaces verts. Vraiment de la nature en ville.
Bon, eh bien, on va être obligé de conclure sur ces derniers mots. Catherine Russac et Serge Marolo, merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, un vaste sujet à travailler, beaucoup de responsabilités pour tous nos élus, pour les habitants, pour les urbanistes, les professionnels, exactement. Merci à tous. Merci à Émilie qui a assuré la technique de cette émission. Retrouvez-nous donc pour la rediffusion de l'émission dimanche prochain à 11h30, le mercredi en direct à 17h. Et puis surtout, si vous avez aimé notre émission Franche Culture, n'hésitez pas à la partager sur notre podcast ou nous liker sur les réseaux sociaux. Et puis vive la curiosité, merci.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.